Mardi 18 octobre 2011, bienvenue à l'aérospatial animé par ma gentille personne qui se nomme Julie Gagné, avec Jacques Gignac à la mise en onde, nos collaborateurs également, Simon Roy, bonjour! Es-tu en studio aujourd'hui pour nous présenter
la radio? Oui, les dernières chroniques, c'est toujours par téléphone, pas beaucoup de temps, mais là, les vacances permettant, mais on fait ça en direct.
Et on se gâte dans quelques minutes, oui. Dans une minute tout juste, on a également Raymond Poirier avec nous. Tu nous feras ta revue de presse.
Comme d'habitude, 5 sujets en 5 minutes.
Et là, tu as une nouvelle de choc, on ne l'annoncera même pas d'avance.
Ah non, on garde le suspense.
On
redéfinit l'histoire de l'art ce soir.
Carrément. Ça a autant d'impact que ça. Dans un autre ordre d'idées, on fait quand même de l'histoire de l'art à l'aérospatiale. On rencontre aujourd'hui Kat Plourde et Natalia Servina qui nous parleront de leur exposition Ensadat qui est présentée à la Galerie de Zara. On va aussi accueillir Catherine Boivin qui nous fera un topo, en fait, sur les deux expositions qui sont présentées à vue, soit Après Strand de Bertrand Carrière et Les théâtres identitaires de Sylvie Larouche. Également, vous allez voir, il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. David Elliott et Marie-France Tremblay nous parleront de leurs expositions à l'œil de poisson, respectivement Mise en scène et Cascade. Donc, c'est un gros menu pour aujourd'hui. Avant de débuter plus avant l'émission, je tiens à vous dire que tout ce dont on parlera se retrouvera sur le site internet de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com, soit vous pouvez l'écouter bien entendu en balado-diffusion, sinon les suggestions musicales de Simon Roy aussi seront disponibles. Et parlant de ces suggestions musicales, Simon, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Je te parle d'un album qui est publié sur No Type. C'est une étiquette canadienne. Ça va être la collection Panos Pria. C'est comme une sous-division de l'étiquette. Panos Pria, ça nous vient de Saskatoon. Donc, c'est un collectif d'artistes. Ils font de la musique expérimentale, du vidéo d'art, de l'éclairage intelligent, du design. Donc, pas mal assez complet comme collectif. Toujours des albums vraiment intéressants qui ont à proposer. Puis c'est souvent d'artistes canadiens, donc ça vaut la peine de découvrir ça. Ce soir, je vous présente un album, c'est une collaboration, c'est deux artistes. C'est Kristen Rose. Kristen, qui est un homme, malgré ce nom-là.
Un prénom, ma foi, fort féminin.
Oui, il fait de la manipulation sonore. J'en sais pas beaucoup plus à propos de cet artiste-là, mais il a collaboré avec Prophecy Sun. C'est une femme de Vancouver. Elle chante, elle fait de la danse, elle fait des installations, des performances. Encore une fois, une artiste vraiment complète.
Elle s'appelle Prophecy Sun?
Oui.
Comme fils?
Non, sonne comme soleil.
Soleil. Okay, ouais,
la prophétie du soleil.
Okay.
Donc, c'est ça, c'est une belle collaboration. Kristen, qui est plus côté percussion, musique électronique, manipulation. Puis, Prophecy Sun, elle, c'est la voix. Donc, voix manipulée par Kristen Rose. Un album vraiment intéressant. L'album s'appelle X. C'est assez planant, assez sombre. Des fois, un peu... mais en même temps lumineux, un petit peu, mon Dieu, no wave sur les bords. Un album vraiment intéressant, je l'invite à le télécharger.
Et ça convient parfaitement à une journée d'automne, par exemple?
Oui, c'est ça. Je me suis levé avec ça aujourd'hui dans les oreilles, donc ça convenait parfaitement.
On en écoute un premier extrait?
Oui, c'est la pièce « Forest ». Reste par Spell, c'était sur l'album X.
Ben, Simon Roy, merci beaucoup pour les suggestions de cette semaine.
Ça fait plaisir.
Puis on te retrouve au micro de Web Music dimanche.
Oui, puis j'ai une chronique, un album vraiment spécial la semaine prochaine. Oh? Soyez là, un album qui est dans un bloc de béton.
Oh, OK. Tu piques notre curiosité. Merci,
oui.
Simon.
Merci.
Bonne semaine. Raymond, on a mentionné, en fait, que tu nous attendais avec une grosse nouvelle. Est-ce que tu en parles en premier ou t'attends, tu fais du
suspense? On va se lancer en premier. C'est une grosse nouvelle. Van Gogh, en fait, ne se serait pas suicidé, mais serait plutôt mort par accident. Alors, en fait, c'est selon les biographes Stephen Knife et Gregory White-Smith qui viennent de signer enfin un nouvel ouvrage sur la vie du peintre Vincent Van Gogh. Eh bien, eux ont dévoilé ce constat qui redéfinit peut-être un peu la fin de la vie du peintre. Les auteurs, et c'est ce que rapporte la BBC, ont consulté parmi quelques 28 000 notes des lettres de l'artiste qui jusqu'ici n'avaient jamais été mises à la disposition des chercheurs. Alors, ce qu'on sait, c'est que le peintre logeait à l'auberge Ravoux, d'où il partait arpenter les champs de blé alentour pour réaliser des toiles. La version qui est communément admise est qu'il aurait tenté de se suicider dans un champ le 27 juillet, puis que, blessé, il a regagné l'auberge où il est mort deux jours plus tard.
Oui, ce serait tiré dans la poitrine.
Stephen Knifehead déclare, en fait, qu'il aurait rapidement apparu que le peintre n'avait pas agi de cette façon-là. Et donc, il y a une autre version qui a circulé parmi ceux qui connaissaient l'artiste à l'époque. Donc, Van Gogh aurait été blessé par balle accidentellement par un couple d'adolescents qu'il connaissait. Le peintre aurait décidé d'endosser la responsabilité de l'incident dans le but de les protéger. On précise d'ailleurs que l'historien de renom John Rewald avait déjà envisagé ce déroulement des événements lors de sa visite à Auvers-sur-Oise dans les années 1930. Il y a d'autres éléments qui sont venus corroborer ça. Ce qu'on sait, c'est que les adolescents avec qui il allait dans les champs, en fait, il allait boire, c'était des amis. Il s'adonnait par contre parfois à des jeux plus cocasses. Ces jours-là, il y en a un des deux qui était costumé en cow-boy, qui jouait avec une arme qui fonctionnait mal et qui aurait donc, par mégarde, par accident, tiré une balle sur Vincent Van Gogh. Et donc, Van Gogh, lui, n'aurait pas cherché activement à mourir, mais face à l'inévitable, a accepté sa mort. Et on ouvre les guillemets, et je cite Gregory White-Smith, donc il a accepté la mort pour l'amour de son frère, pour lequel il était un poids.
Quand même, voilà. Ça change la dynamique, ça change le regard qu'on porte sur Vincent Van Gogh. Ça n'enlève pas les problèmes de santé mentale qu'il a pu avoir, mais ça a un impact.
Ça change un peu la donne. Voilà. Alors, on mettra cette dépêche sur le site de l'aérospatiale, d'ailleurs, l'aérospatiale.wordpress.com, ainsi que le reste des articles qui vont être mentionnés dans la revue de presse. On change de ton. Grosse nouvelle également pour le monde de l'art. En fait, Art Review, magazine britannique spécialisé et extrêmement renommé, a rendu public son classement des artistes et des personnalités les plus importants du milieu de l'art. Et en tête, cette année, un choix qui est peut-être à saveur politique. Ils ont décidé de mettre l'artiste dissident chinois Ai Weiwei, récemment détenu au secret durant près de 3 mois. Donc Ai Weiwei qui s'était illustré notamment avec une exposition dans la Tate Modern à Londres où il avait fait une installation géante formée d'un tapis de graines de tournesol en porcelaine. Ai Weiwei également qui s'était fait beaucoup connaître par son opinion extrêmement critique envers le régime communiste chinois. Alors d'où justement peut-être le positionnement politique. En même temps, on lui donne un statut. Est-ce que ça pourra l'aider aussi à continuer de s'exprimer, à continuer de conserver cette liberté d'expression-là?
Oui.
La question se pose. Et certains médias ont été contactés, la Chine justement, pour savoir un peu leur point de vue face à cette nomination-là. Et donc les autorités chinoises qui ont dit « Ouais, mais on a les meilleurs artistes que lui, qui aurait pu se retrouver en tête de manière beaucoup plus viable. Ai Weiwei est loin d'être un des meilleurs artistes chinois. »
Bon, on cherche à banaliser son travail.
Exactement. On reste un peu dans le marché de l'art. Tiens, un record au Québec qui pourrait être battu au Canada même, en fait. À chaque automne, les grandes maisons de vente aux enchères canadiennes tiennent leur vente d'art. La maison Eiffel va présenter à sa séance du 24 novembre prochain un tableau qui s'appelle 1910 Remembered de Jean-Paul Lemieux, qui est une œuvre charnière dans la carrière de l'artiste. Et en fait, ce qui risque de se passer, c'est que selon certains estimés obtenus via Canoë, l'œuvre vaudrait entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Et ça, c'est intéressant parce que si c'est la tranche supérieure qui l'emporte, ce serait l'œuvre canadienne d'un artiste contemporain, d'un artiste contemporain au sens large, là, on s'entend. Donc, il serait, ce serait vendu le plus cher dans l'histoire récente du pays. Le record est actuellement détenu par Riopel avec une toile qui avait été vendue à 1,67 million de dollars. Sinon, je termine rapidement avec deux petits clins d'œil. Premièrement, le prix Sobey d'art a été remis la semaine dernière, un prix quand même assez prestigieux au Canada, accompagné d'une bourse de 50 000 dollars. Il a été remis aux artistes Daniel Leung et Christian Giroux. On a expliqué ce choix-là par Le Monde Surprenant, où les systèmes numériques sont indissociables à la vie quotidienne et une pratique artistique extrêmement pertinente. Donc, le jury des prix Sobey, qui est composé d'une série de conservateurs de musées d'art bien renommés. Et en terminant, la Tate Modern s'en va sur Internet.
Oh!
Alors, en fait, ils ont décidé d'ouvrir un espace de performance en direct. Et ils vont offrir, en fait, une salle qui va s'appeler le Performance Room. Ça va commencer en mars 2012. Et dans cette salle-là, ils vont offrir, donc, à un artiste contemporain la possibilité de créer en direct sur le web et d'occuper la salle comme il l'entend. Ça va être vraiment tout type d'artistes, autant des gens connus que des gens méconnus, que des gens inconnus, des artistes de la relève comme des artistes établis. Ils vont commencer avec Jérôme Bell, un artiste français, parce qu'il va avoir bien entendu un axe international à tout ça. Alors, ce serait intéressant de voir de quelle manière ça va s'exprimer sur Internet, mais je trouve ça bien de voir aussi des musées comme la Tate Modern, ben, justement, embrasser ce type de diffusion-là qui permet ben, aux gens d'ici de voir ce qui se fait là-bas en direct.
Raymond Poirier, merci beaucoup. On salue également cette bonne nouvelle. On s'en va en pause audio. On écoute Sperl avec la pièce Just a Matter of Time sur les ondes de CKRL. Bonjour à CKRL, on vient d'entendre un extrait de la pièce Just a Matter of Time de Spell, tiré de l'album. Excellent, on se transpose, on est en musique, on s'en va dans le monde de l'art visuel, on s'en va à la galerie de l'œil, on s'en va à l'œil de poisson, carrément, pour discuter avec deux artistes qui exposent en ce moment. David Elliott avec Mise en scène. Bonjour David.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Vous-même?
Ça va très bien. On rencontre également Marie-France Tremblay qui nous présente l'exposition Cascade. Bonjour Marie-France.
Bonjour.
J'ai commencé avec toi Marie-France. Cascade qui est présentée à l'espace de l'entrée vidéo, mais tu ne l'utilises pas.
J'utilise l'espace. En fait, j'utilise l'espace au complet, mais c'est plutôt une entrée non vidéo que je présente, avec le projet Cascade.
Et le projet Cascade, c'est comme une grande tapisserie, si on veut?
C'est un papier peint, en fait. Ça occupe tout le mur de l'entrée vidéo. Puis c'est un papier peint, je dirais, quelque chose à mi-chemin entre le papier peint puis le collage, parce que c'est composé de plein de morceaux là, qui sont mis ensemble pour faire un motif, dans le fond.
Pour faire un motif, on en reparlera dans un instant. David Elliott, vous nous présentez Mise en scène, et c'est carrément une mise en scène là, dans les œuvres, dans la grande galerie.
Oui, c'est ça. Chaque toile, c'est comme une genre de mise en scène, comme une espèce de théâtre.
Vous faites des toiles de grand format avec des éléments qui peuvent nous sembler un peu disparates. Ça s'apparente au collage, en fait, ce que vous faites, mais en peinture. C'est quoi votre démarche vis-à-vis ça?
Mais ils sont des collages, faits dans des collages 3D, on peut dire peut-être. Je construis les petites boîtes, puis je place les éléments, les images dans les boîtes. Puis ensuite, j'ai pris les photos avec les lumières, une source de lumière, puis avec les ombres qui tombent dans la boîte. Alors, c'est ça le point de départ pour les peintures. Alors, c'est pour ça que ça a l'air comme les grandes trempe-l'œil, vraiment.
Ce sont vraiment des collages. Donc, à la base, ces boîtes-là, elles existent et sont reproduites en grand format en peinture.
Oui, c'est ça. Les boîtes sont petites, sont comme 8 pouces par 8 pouces, puis les toiles sont 8 pieds par 14 pieds ou 6 pieds par 7 pieds. Alors, c'est ça, un changement de grandeur dans toutes les toiles.
Parlant de collage, Marie-France Tremblay, toi aussi, tu as fait du collage sur ta grande murale, tapisserie, donc c'est imprimé, mais par la suite, tu découpes puis tu colles.
Ben oui, c'est ça, c'est fait en sérigraphie. Mais pour briser un peu le rythme de la sérigraphie, qui est en fait une méthode d'impression là, qui sert à reproduire la même image plusieurs fois, pour briser cet effet-là de répétition, j'ai travaillé avec différentes sérigraphies que j'ai découpées et que j'ai remises ensemble. Là, j'ai comme fait du collage par-dessus par-dessus ce qu'il y avait déjà pour justement rendre unique là, chacune des parties de mon image.
Ben oui, parce que sinon, ça reste quand même la même base, là, si on veut, le même motif qui est répété, mais tu fais des petites mises en situation aussi au travers de ça.
En fait, c'est une espèce de structure d'un motif qui est c'est des plongeons sur lesquels il y a des plongeurs, puis là, je me suis amusée à mettre plus ou moins de plongeurs, puis à ajouter aussi d'autres objets qui n'ont carrément pas rapport avec le plongeon, comme des voitures ou des espèces de monstres, en ajoutant plusieurs pattes aux personnages ou plusieurs têtes ou des choses comme ça.
Ouais. En créant des fois de la confusion aussi, là, je pense à un endroit où il y a comme une espèce de mêlée, là, c'est une bagarre générale, est-ce qu'on va empêcher l'autre de plonger?
C'est ça, des espèces de parasites ou d'erreurs de moule, parce que c'est les mêmes personnages qui sont répétés là, à plusieurs reprises, mon Dieu, à des centaines
de l'infini.
Pour ne pas dire à l'infini, ouais. C'est les mêmes personnages qui sont répétés, puis c'est ça, je me suis amusée là, à les superposer, à les empiler, à les mélanger.
D'ailleurs, je fais des ponts un peu d'une exposition à l'autre. Vous excuserez les ponts des fois un petit peu boiteux, mais David Elliott, vous choisissez quand même des images dans vos collages. Qu'est-ce qui guide le choix des images?
J'ai une différente histoire pour chaque toile, mais en général, c'est assez subjectif. Ils ont quelques-unes qui sont classées, comme les natures mortes, les vanitas, comme les vanitas baroques. Mais les autres qui sont plus comme une espèce de théâtre, mais une théâtre un peu ancienne, un peu comme les films de Georges Méliès ou comme le théâtre de vaudeville au début du siècle, le 20e siècle. Alors, je ne sais pas que... Tout le monde pose la même question, pourquoi les images-là, comment je fais mes choix, mais c'est assez subjectif. Je sais que j'ai un sens, une atmosphère que je veux dans l'étoile, un certain climat psychologique, mais c'est ça que je cherche avec les images pour trouver ça.
Travailler quand même avec des correspondances, là, je pense à une œuvre, par exemple, La tête de mort, après ça, à côté, il y a une horloge, une machine à écrire. J'imagine quand même que chacun des éléments dans la toile doit référer à quelque chose qui est significatif pour vous aussi.
Oui, ben, je suis peintre, mais j'écris aussi, alors peut-être c'est ça pour ça, le dactylo, mais oui, c'est ça, mais je joue aussi dans les clichés de la peinture, comme les fleuries, les tables avec les objets dessus dans certaines toiles. Ils ont les autres toiles qui sont faites pour mes petits-enfants, comme avec les lapins et tout ça.
Oui, ou avec Castor.
Oui. Oui, c'est ça. Je ne sais pas même s'ils connaissent Castor encore, ils sont très, très petits. mais c'est ça.
Mais il y a certains éléments quand même qui sont récurrents d'un tableau à l'autre. Je pense aux chiffres. Bon, il y a le lapin qu'on voit à quelques endroits. Il y a les étoiles. C'est l'idée que le spectateur joue un peu à retrouver ces motifs-là?
Mais je trouve que je pense que les artistes, ils ont leur répertoire. Les images, les cymbales qui parlent pour moi. Alors, souvent, il revient à travers les années dans différentes toiles. Oui, je pense que c'est vrai si tu vois l'histoire de Picasso ou Beckman ou les autres artistes, tu vas voir comme les choses qui reviennent à travers toute leur carrière. Alors, c'est ça. C'est la même situation pour moi, je pense.
Et parlant de motifs qui se répètent, je reviens à toi, Marie-France Tremblay. Bon, la cascade, c'est une série de motifs qui se répètent. Tu as tenté de faire la rupture, justement, des motifs. Mais tout ça, c'est inspiré d'une de tes séries que tu travailles, qui est les pyjamas.
Oui, en fait, ça part de ce projet-là, les pyjamas, qui est un projet d'illustration que j'ai publié l'année passée sur mon site Internet. Sur lequel je publie des images. Là,
Marie Dessine,
ça s'appelle Marie Dessine, c'est ça. Ça s'appelle Marie Dessine. À la base, je publiais une image par jour sur ce site-là. Maintenant, c'est un peu moins que ça, mais en tout cas,
c'est composite aussi. Là.
C'est ça. Puis le projet des pyjamas a lieu sur Marie Dessine en premier. C'est une série d'illustrations qui représente en fait des motifs un peu à la manière des motifs qu'on retrouve sur des pyjamas, c'est-à-dire des petits dessins aux couleurs pastel, des petits personnages, des petits bonhommes. Sauf qu'à la différence des motifs qu'on trouve sur les vêtements de nuit, c'est ceux de ma série sont plutôt des personnages un peu bizarres, comme par exemple des fumeurs ou des personnages un peu patibulaires ou un peu épeurants, des accidents de voiture, des voyous qui sont en train de briser quelque chose, des vandales, ce genre de motifs-là.
En fait. Tu détournes carrément l'imagerie, en fait, la naïveté. Moi, je vois souvent, j'ai en tête le petit pantalon, le petit habit de pyjama à boutons là, pour garçon, et là, soudainement, tu mets l'image vraiment
ouais, là,
complètement
haute. Oui, là, c'est un camion, mais super brisé, qui est complètement accidenté, c'est ça.
Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir représenter ce genre de choses-là en motif de pyjama?
Excellente question. Je ne sais pas trop, en fait. Je voulais faire, au départ, c'est un projet. Je voulais faire des animations, en fait. C'est drôle, je voulais faire des animations au départ, puis je voulais faire des animations un peu bizarres, un peu comme des films d'enfants, mais qui ne sont pas ça pantoute, qui sont un peu tordus. Puis je voulais pas les publier tout de suite en tant qu'animation, fait que je me suis mise à faire des motifs, puis j'ai appelé ça les pyjamas, parce que je trouvais ça drôle, je sais pas.
OK, fait que c'est vraiment venu du sujet avant même le concept de pyjama.
Oui, c'est ça.
Je pense à David. En fait, j'ai remarqué quelque chose, vous en avez parlé aussi, les référents, les images connues, mais dans votre travail, il y a vraiment des référents vis-à-vis de différentes périodes de l'histoire de l'art. C'est volontaire de citer comme ça?
As-tu un exemple?
Je pense par exemple à, je dis des référents ou à tout le monde des associations qu'on peut faire en tête. Bon, l'étoile qui fait peut-être un peu pop, l'idée des vanitas, justement, la vieille photographie de la dame.
Mais je peux voir. Ça dépend du spectateur, mais tout le monde va venir avec une différent bagage, mais dans une façon, je pense que dans l'étoile, ils ont comme toute l'histoire, pas juste l'histoire de l'art, mais peut-être l'histoire de représentation, même les icônes des premiers ordinateurs et tout ça. J'aime ça, être capable dans une seule toile d'avoir comme une parade de tous les langages des images dans une toile. C'est un peu comme, je sais pas, je trouve ça fun d'avoir les différents langages qui jouent ensemble dans une même toile.
Ça doit être un défi aussi à faire, à s'assurer qu'il y a une cohésion dans l'ensemble entre ces différents langages-là?
Mais qu'est-ce qui est... Oui, comme tu vois, dans les toiles, ils ont les petites sections qui sont traitées dans une différente façon. Ils ont des sections assez réalistes ou même hyper réalistes, puis les autres sections un peu bébés ou croches ou, tu sais, très, très simples ou graphiques, mais... Je pense que dans les toiles récentes, comme on voit à l'œil, c'est le fait qu'ils sont dans une boîte, puis l'espèce de lumière, puis l'espèce de les ombres qui tiennent tout ça ensemble. Alors, une certaine vérité, même si c'est vraiment fiction, c'est vraiment artificiel, qu'est-ce que je suis en train de faire, il y a une certaine réalité avec la lumière, puis avec les ombres qui tiennent, je pense, tout ça ensemble.
Eh bien, David Elliott, merci beaucoup.
Merci à vous.
Marie-France Tremblay, merci beaucoup.
Merci.
Donc, on peut aller voir les expositions Mise en scène et Cascade, également l'exposition de Marc-Antoine Kofaneff, Guy et Nathalie s'est présentée à l'œil de poisson jusqu'au 13 novembre. On fait une courte pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin.
Vous cherchez un endroit accueillant avec une ambiance unique pour vos parties de fête? Le Quartier de Lune vous invite à réserver dès maintenant pour vos parties de bureau. Savourez notre délicieux buffet offert gratuitement et profitez de nos spéciaux sur les consommations. Nous vous présentons aussi des spectacles afin de vous faire vivre une soirée inoubliable. Réservez rapidement au 523-4011. Le Quartier de Lune, 799 Avenue Cartier.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Try it now. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude.
La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue.
Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Il est 18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Je vous répète, si vous avez manqué un petit bout d'émission, vous voulez le réécouter, vous voulez écouter les suggestions musicales de Simon Roy ou encore lire les articles de la revue de presse de Raymond Poirier, vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On a aussi une page Facebook, donc si vous voulez aimer l'aérospatiale plus activement, vous pouvez le faire par le biais de Facebook. On est facilement retrouvable. Alors voilà, petite plug. On passe en fait à la chronique de Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Tu es allée faire un tour à vue en fin de semaine.
Oui, je suis allée voir une toute nouvelle exposition dont le vernissage a eu lieu vendredi dernier. Donc vraiment,
c'est frais.
C'est tout frais. Et donc, exposition double. Au centre vue donc de la photographie, Bertrand Carrière, une expo qui s'appelle Après Strand, je vous en parle dans un instant, et Sylvie Larouche, les théâtres identitaires.
T'as aimé?
J'ai vraiment aimé. Je vous dirais, il faut le voir, courez-y.
Les deux, hein?
Pour les deux. Les deux se répondent très bien. Les deux aussi, en tout cas, moi, ce qui a marqué au départ, c'est une photographie où la couleur est assez importante, l'émotion aussi. Et la qualité technique dans les deux cas. Mais deux expos différentes. La première, paysage social, et la deuxième, on pourrait dire, portrait social.
Portrait social, effectivement. Mmh.
Donc, d'abord, je vais vous parler du travail de Bertrand Carrière. C'est une grosse exposition. On a même lancé un catalogue vendredi dernier qui accompagne cette exposition-là, en fait, qui est parrainé par le Musée régional de Rimouski, dont le commissaire est Franck Michel. Et c'est une exposition donc, qui a eu une première, qui a été présentée une première fois au Jardin de Métis, donc, aux portes de la Gaspésie, parce que l'exposition, c'est une exposition photographique des paysages de la Gaspésie, essentiellement. Ça s'appelle Après Strand, parce que, en fait, Bertrand Carrière a revisité la Gaspésie, mais en prenant un peu le point de vue d'un photographe américain des années 30, qui lui-même avait visité la région dans les années 30.
Et qui avait fait quand même des images assez touchantes de la Gaspésie.
Oui, il y a quelques images là, qu'on peut voir de Strand. En fait, il y en a trois. Et Bertrand Carrière en fait trois modernes, donc se font écho. Mais sinon, les autres œuvres sont présentées, sont des photos originales de M. Carrière, mais donc c'est pas nécessairement des copies. Là.
On est plus comme dans une citation indirecte ou dans l'esprit.
Oui, c'est ça, dans l'esprit, mais je dirais même, en fait, juste quelques mots sur Strand. En fait, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler de ce photographe, et il a quand même joué un rôle important. On dit que c'est un des premiers photographes américains qui a établi vraiment une rupture avec la tradition de la photographie du 19e, une tradition de photos un peu plus romantique, là où le paysage inspire un aspect un peu sublime, un sentiment là, de grandiose. Et puis, lui, ce n'était pas tout à fait son intérêt. Son intérêt était beaucoup plus formaliste, beaucoup plus neutre aussi. Il ne voulait pas nécessairement susciter de ses grandes émotions face à un paysage qui est très prenant, parce que celui de la Gaspésie l'est nécessairement. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que, d'une part, en fait, Carrière va reprendre tous les aspects techniques de Strand. Alors, j'en avais noté quelques-uns. Point de vue direct, point de vue frontal absolu, la clarté de l'image, la netteté, la précision aussi, là, avec les lointains très, très, très au point. Un regard quand même assez neutre. Hein? On prend nos sujets, mais on n'essaie pas justement d'exprimer une émotion.
On
là,
parler le sujet.
Exactement, c'est ça. Et dans le fond, c'est vraiment un travail très, très fort sur les plans, les volumes, et puis même, je dirais, le problème qu'il lui-même avait noté, c'est de réussir à créer l'unité entre l'avant-plan, le plan moyen, le lointain et le ciel.
Ben oui.
Donc, arriver à l'espèce d'unir ça. C'est vraiment un travail très formaliste. Et après qu'on ait pris connaissance du sujet, on s'amuse à découvrir justement toute la qualité formelle de ces œuvres-là. Et c'est ce qui m'a plu beaucoup. Donc, Bertrand Carrière, lui, reprend ce regard-là, ce regard de composition et très formel dans les paysages de la Gaspésie. Donc, il refréquente les lieux que Strand avait fréquentés lui-même près de 80 années auparavant. On dit qu'il se glisse dans le regard de Strand. J'ai bien aimé cette formule-là. Mais enfin, au-delà du projet technique, parce que c'est pas que ça, il y a quand même, c'est quand même très, très touchant, parce qu'il y a auprès de, il y a vraiment la, je dirais, la présence du temps qui passe. On sent, il y a tout un travail de mémoire, et les lieux sont marqués par le temps. Alors oui, il y a un travail formel, mais je dirais tous les matériaux, les objets laissés par l'humain, l'humain lui-même dans les images. Là, il y a toujours la trace de l'humain.
Ouais.
Ouais, et il y a un regard quand même justement très, très humaniste qui façonne le paysage. Puis parfois, c'est des... Et on sent le côté quand même neutre. Hein? C'est pas nécessairement de vouloir embellir ou s'apitoyer sur le sort, mais... Et puis, il y a aussi... Alors des fois, ça, on fait référence au 19e siècle. On a des images de croix de chemin... avec un témoignage d'un prêtre, d'un jeune prêtre de 26 ans qui s'est noyé dans la mer derrière. Alors, on a une immense croix de chemin avec un panneau qui nous rappelle cela. Mais parfois, c'est un morceau de quai, comme une espèce de ruine,
ouais.
Avec des fleurs de lys qui nous rappellent la grande époque nationaliste des années 70. Mais là, de voir ça là, comme démoli, comme un vestige, clair, comme si on était 100 ans plus tard, là, enfin, c'est un drôle de rapport au temps. Et donc, et puis, enfin, alors, il y a ce regard-là sur la ruine, le temps qui passe, qui marque le paysage.
Donc. C'est drôle parce que c'est la deuxième exposition qu'il y a sur la Gaspésie en photographie cet automne à Québec. Il y avait Gaspésie Humanless de Guillaume Dessir et Yana Ouellette qui va complètement dans une direction différente de cette exposition-là. Mais quand même, tu sais, moi, je me disais, qu'est-ce que ça va donner? Comment on le regarde en fonction de ça? Puis c'est tellement différent que... Mm-hmm. On peut penser au sujet, mais la comparaison s'arrête pas mal là.
Oui, mais enfin, en tout cas, on peut prendre... Il y a quand même, je dirais, plus d'une vingtaine de photographies. Et puis dans le catalogue, il y en a encore davantage.
On peut le consulter.
Oui,
aussi.
On peut le consulter. Il est magnifique. Vraiment un beau travail de reproduction. Et là, quand on descend l'escalier et qu'on va dans la plus petite galerie, alors là, on va rencontrer Sylvie Larouche, qui, en fait, on passe d'un paysage un peu plus extérieur. La majorité des images chez Bertrand Carrière sont extérieures. Et là, on rentre à l'intérieur, chez les gens. Alors, le théâtre identitaire de Sylvie Larouche nous propose une exposition assez troublante parce qu'on rencontre des personnages qui habitent Québec, des personnages qui sont généralement qu'on croise, mais qui sont quand même assez anonymes, et à partir d'une démarche, je dirais, assez sociologique, là, où l'artiste rencontre son sujet, développe une complicité, réussit à obtenir un portrait, et parfois ce portrait-là a été pris à l'intérieur, dans l'univers très, très particulier de ces gens. Et là, on découvre des univers, je ne sais pas comment t'as attrapé ces images, mais des univers troublants quand même, curieux, amusants.
Il y a vraiment des collections, hein, en fait, dans ces univers-là. C'est des gens qui ramassent des objets, oui. Qui font des mises en scène dans leur maison ou dans leur appartement.
Oui, d'où l'idée de la théâtralité de ces identités-là. Tout à fait, c'est vrai que le principe de collection, on voit justement des murs remplis d'animaux empaillés pour certains, et un souci de mise en scène par des lumières de Noël aussi, ou comme sur le carton d'invitation, on voit un frigo avec une collection d'aimants, mais toutes placées de façon très systématique. On voit que les gens contrôlent leur univers, mais ils se créent tout un univers quand même assez particulier, assez étrange.
Oui, on sent étrange aussi en regardant ça. On ne sait pas trop quoi penser devant de l'empathie ou devant comme un... Ça crée comme pas une crainte, mais ça me fait sentir un peu mal à l'aise. En tout cas, moi, ça me fait ça, me faire sentir un peu mal à l'aise. C'est d'avoir ça qui ça relève un peu de l'obsession, là, ces accumulations-là.
Ben oui, c'est ça. Il y a un petit dérangement mental qu'on soupçonne. Et puis voilà, d'où l'idée du malaise, mais en même temps, le sourire et le regard, parce que c'est des univers assez intéressants. Là, on se demande où il y a tout un imaginaire derrière ça qui fonctionne à plein. Et aussi, moi, j'étais la couleur de ces environnements-là aussi. Là, ça fait des images très, très fortes. Des paysages, des personnages avec une présence aussi très forte.
Bien, une présence aussi dans la ville, là, parce qu'il y en a plusieurs de ces gens-là qu'on croise régulièrement. Moi, je me rappelle avoir habité dans le même bloc appartement qu'un d'eux, en voir un au Parc Saint-Roch, l'autre devant le parvis de l'église. Donc, c'est des gens qui habitent notre quotidien.
Oui, et que là, on découvre d'une autre... C'est ça, on découvre de façon plus intime. Alors, c'est vraiment... une exposition à voir. Mais je vous dis, courez-y pour les deux, pour des raisons différentes et distinctes, mais pour, comme je disais, la qualité, l'émotion et la couleur de ces deux expos de photos.
Bien, Catherine Boivin, merci beaucoup.
Bien, ça m'a fait plaisir.
On se retrouve dans environ un mois pour une autre chronique. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute Fading Away sur les ondes de CKRL. Je viens d'entendre la pièce Fading Away qui vient justement d'être fadée. Oh, OK, quel petit lien un peu ordinaire. C'était l'album X du duo Sperm, une suggestion de Simon Roy que vous pouvez retrouver, pas Simon Roy, mais la suggestion sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com. De notre côté, on s'en va sur la rue Saint-Paul à la galerie de Zara. On va discuter de l'exposition Inside Out avec Natalia Serbina et Kat Plourde. Bonjour à vous.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Oui, merci beaucoup.
Cette exposition-là, ça résulte d'une première association entre vous deux. C'est une suggestion, une proposition, en fait, que vous avez fait à la galerie de Zara. Qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer ensemble?
En fait, moi et Natalia, on est amies depuis quelques années déjà. Et puis, ça faisait déjà quelques temps qu'on pensait justement proposer un projet ensemble. Mais en continuant toutes les deux de travailler chacun notre pratique de notre côté, puis à un moment donné, en découvrant la galerie Zara, on s'est dit que c'était peut-être l'opportunité, je ne sais pas, Natalia?
Ben oui, en fait, Catherine, elle a vu mes œuvres. À un moment donné, elle avait une idée, elle s'est dit, ben pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble. Moi, j'étais très ouverte et très willing, donc on s'est dit, ben c'est parfait. On a essayé d'écrire un projet et ça a été accepté. On est très, très ravis.
Et votre association, en fait, s'est vraiment développée dans l'échange. Hein. Vous le mentionnez quand même dans le communiqué par le biais de discussions. Vous étiez influencé par le travail de l'autre. Ça allait dans une ligne directrice commune?
Non. En fait, c'était au départ, on s'était pas donné vraiment de règles, justement. On s'était dit, là, on va travailler ensemble. Et puis, on va voir, tu sais, comment on va pouvoir, une et l'autre, s'échanger des idées, se donner des pistes de travail. Et puis, finalement, ça s'est fait un peu tout seul. On voulait pas partir avec une thématique différente ou quoi, ou créer une narration linéaire, mais bien plutôt de s'influencer en étant côte à côte et puis de laisser un peu les choses aller comme ça, de sorte que formellement, l'échange se créait au fil du temps, au fil du travail. Voilà, c'est comme... C'est pas quelque chose de constant, mais bien un rythme, un dialogue, de sorte comme une discussion un peu hétéroclite par moment, mais...
Hétéroclite, mais vous me direz si vous êtes d'accord, mais on sent quand même, on reconnaît ta trace, quatre plots, donc on reconnaît la tienne, Natalia Serbina, mais quand même, il y a une unité dans l'exposition. Là. C'est pas, vous n'avez pas mis les pièces d'un côté, celles de l'autre côté, comme c'est habituellement à la Galerie Zara. Vous avez vraiment décidé de faire dialoguer les œuvres entre elles.
Ben, je pense qu'en fait, c'est ça, le grand mot, c'était vraiment un dialogue, comme une conversation. Une qui parle, l'autre qui parle, et dans l'exposition, on peut voir ça aussi. Ils sont pas nécessairement une, mais des fois, il y a deux tableaux de quatre et deux après une de moins. Puis aussi, quand même, on s'est donné à peu près la même palette pour que ça soit pas trop de couleurs. Puis ça, comme on a les mêmes sensibilités, je pense, même si l'approche n'est pas tout à fait pareille, ça donne quelque chose de uni.
C'est ça, l'idée de base, en fait, nous est venue parce que quand on a découvert le travail de l'autre, les deux, on était vraiment étonnés de voir nos parités. On a fait « Wow, c'est rare que ça arrive dans la vie. Il faut proposer un projet ensemble. Il faut travailler ensemble. » Puis finalement, ça nous a apporté beaucoup, là, chacune, justement, ce projet-là.
Tout à l'heure, vous parliez de la palette de couleurs. Hein. C'est une palette de couleurs qui est quand même assez bon, douce. C'est sûr qu'il y a des couleurs un peu plus foncées. Il y a des roses. C'est quelque chose de très féminin, de très intime. Est-ce que c'est que vous y pensiez à ça au moment de vous entendre là-dessus?
En fait, ça fait partie de notre travail chacune, je crois. Parce que c'est vrai que, par contre, on a développé toutes les deux une palette particulière sans comprendre vraiment pourquoi pour cette exposition-là. Par contre, la palette plutôt pâle et saturée et tout ça fait partie de notre travail à chacune. Mais c'est vrai que pour le projet présent, on s'est quand même influencé sur la palette. Natalia faisait une toile, j'étais comme « Oh, wow, ouais, moi aussi, très su de cette couleur-là! » Donc, c'est à peu près comme ça.
Une observation que j'ai faite en visitant l'exposition, la personne qui m'accompagnait a fait un peu la même observation, c'est votre manière aux deux de traiter l'espace hein, de la peinture, comme si, Kat, tu t'intéresses plus aux gens, tu t'intéresses plus aux objets aussi. Natalia, ça semble plus cellulaire, si on veut. Mais vos formes, aux deux, comme flottent carrément sur la surface.
On a reçu le commentaire, en fait, aussi, justement, l'idée de flotter, de... Même si Natalia, est-ce que tu me laisses parler de ton travail? J'ai quelque chose à dire parce qu'en fait, Natalia, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment une bribe, tu sais, découpée qui est seulement un fragment d'un univers, tu sais, qui est assez mouvant et tout ça. Puis moi, c'est ce que j'ai essayé d'aller chercher dans le travail de Natalia parce que moi, j'ai l'habitude de cintrer mon sujet, de travailler les figures, les objets, à peu près que ça, finalement. L'univers, le contexte, j'en tiens rarement compte. Mais Natalia, je suis allée chercher ça de son travail. Ça m'a poussée à faire comme un retour à la peinture, la matérialité de la peinture. Puis à revenir un peu à l'instinct aussi, créer quelque chose qui déborde un peu du sujet. Puis ben dans le contexte de Natalia, justement, on a sélectionné aussi le travail qui faisait plus... qui allait chercher une figure, un objet pour le ramener au premier plan, ce qui n'est pas toujours le cas dans son travail, justement. Mais c'est ce qui fait le plus pont avec mon travail.
Et toi, Natalia, est-ce qu'il y a des éléments de cadre qui t'ont influencé plus précisément?
Ben moi, en fait, c'est plutôt dans la façon de travailler qui est tellement différente l'une à l'autre. Parce que moi, je fais plus, c'est très instinctif. Je travaille dans ma tête plutôt que sur le dessin et des trucs comme ça. Catherine, elle étudie très fortement son sujet avant. Elle fait le dessin, elle fait les photos. Donc, dans ça, moi, je l'ai vu travailler et je me suis dit, pourquoi pas aussi m'influencer par les images d'ailleurs, de faire le dessin. Donc, je pense que finalement, ce que l'expo donne, c'est notre mutation une vers l'autre. Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de dialogue, comme je disais tantôt. Donc, ça fait que, bon, il y a une unité certaine. Sinon aussi dans la ligne, parce que Catherine, elle traite la ligne complètement différemment de moi.
Qui est beaucoup plus présente, en fait, chez Kat.
Exactement, tandis que moi, bon, c'est plutôt les atmosphères un peu en tension et tout ça. Donc, je pense que là, la ligne est beaucoup plus présente. C'est difficile de l'imaginer à la radio, bon, il faut le voir, mais...
Bien, on voit quand même bon, des formes qui semblent en suspension, mais moi, j'ai vu la ligne bon, dans certaines formes qui ressemblent un peu, je pensais à une dentelle ou encore un travail au crochet, ou sinon, des fois, une ligne qui donne presque l'impression d'une ligne d'horizon, mais qui étonne quand même par sa rareté.
Oui, c'est ça, exactement. C'est, en fait, il y a un peu... Ben, je ne sais pas si c'est l'horizon ou juste une genre de coupure de l'espace visuel, puisque moi, je travaille l'espace un petit peu plus abstraitement dans ma tête. Après, à chacun d'interpréter comment il sent la toile et tout ça, mais...
Peut-être, je veux revenir peut-être parce qu'il nous manque du temps, l'émission tire à sa fin. Kat, justement, on parle de la ligne. Chez toi, c'est vraiment très présent, en fait. Plus que la picturalité, c'est la ligne qui est mise à l'avant dans ta peinture.
Tout à fait. D'ailleurs, avec Natalia, j'ai quand même poussé la picturalité, mais le travail de la ligne, je le trouvais important dans ce projet-là parce que j'ai l'impression que je suis plus capable de partir dans une schématisation de mes figures, de l'objet, des corps. Que quand je traite la peinture plutôt avec les détails et tout ça. Puis, juste la ligne, je suis capable d'arriver à une abstraction, de rejoindre un peu l'univers de Natalia dans la mouvance et tout ça, mais...
Bon. C'est à suivre, d'ailleurs. Dernière question, est-ce que c'est une collaboration qui risque de se répéter à l'avenir?
On a des projets de même monter ensemble sur le même, sur le même support. Et puis, ouais. Donc, ça devrait venir tout bientôt, là.
Ça va porter fruit. C'est un dossier à suivre.
Tout à fait.
Natalia Serbina, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julie.
Kat Plourde, merci beaucoup.
Merci.
Donc, l'exposition vient tout juste de commencer à la Galerie de Zara. Vous pouvez y aller jusqu'au 18 novembre. On s'en va en pause. On écoute la pièce Break the Speed of Light sur les ondes de CKRL. Alors, c'était le dernier extrait de l'émission L'Aérospatiale aujourd'hui. C'était la pièce Break the Speed of Light de l'album X. C'était du duo, la collaboration qui s'appelle Spell. Si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com, mais également sur le site de l'étiquette No Type sur lequel vous pouvez télécharger. Je ne sais pas si dans ce cas-ci c'est gratuit, mais souvent c'est en téléchargement gratuit, donc accès à une vaste quantité et variété de musique. Je termine l'émission sur un calendrier, ma foi, fort, fort, fort chargé. Vous savez, la plupart des expositions débutaient la fin de semaine dernière. Il y a vraiment toutes sortes d'événements, notamment ce soir à 19h30 au Musée de la Civilisation. C'est la dernière soirée cinéma qui est présentée par Antitube et Record dans le cadre de Calibrage sous déviance. Donc, vous pouvez voir les films Trees of Syntax d'Aichi Saito et Le Chant des oiseaux d'Albert Serra. Demain, à 19h30, il me semble aux alentours de 19h, vous pouvez assister à la conférence sur Gustave Caillebotte et son texte, je crois que c'est exactement, par Françoise Lucbert, qui est enseignante en histoire de l'art à l'Université Laval. Jeudi prochain, premier 5 à 7 de la campagne de financement Le Cube de la Chambre Blanche. Donc, la première soirée rencontre aura lieu dans l'installation Invisible Places de l'artiste brésilien Claudio Bueno. C'est un échange entre Avatar, la bande vidéo et le MIS. Jeudi, vernissage de l'exposition Le Monument de Peyo Elisséry à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. En fin de semaine, la Maison des métiers d'art de Québec présente une sélection de films primés, au Festival international du film sur l'argile et le verre. L'ouverture est vendredi à 19h30. Ce vendredi également, la nuit des sans-abri. Folie Culture propose un abri pour la nuit dans le cadre du concours. Donc, 5 équipes qui se sont préparées pour faire des maisons de carton pour les sans-abri. Également, vernissage de la nouvelle exposition de Marcel Jean à sa galerie le 36, vendredi à 19h. C'est déjà tout pour l'émission. Je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL.